Dernière de la semaine déjà. Ça passait vite cette semaine, mais il faut dire qu'on n'était pas là mardi à cause du verglas. Alors, petite semaine de 4 jours. Finalement, janvier 2018, bienvenue à l'émission Le quotidien des quotidiens. C'est Hélène Denis qui vous accompagne. Bonjour Mathieu.
Bonjour, bonjour.
Avez-vous remarqué le ciel
bleu? Oui.
Radieux.
J'ai la chance de descendre vers le sud quand je me rends travailler. Et le ciel est toujours, toujours fantastique le matin.
Oui, mais vous
ben,
êtes de ceux qui regardaient encore le ciel. Ouais.
Malgré la glace, ce qui n'est pas toujours prudent.
Oui.
Là, mais,
et les appareils qui nous captent complètement
non,
notre
ça,
attention.
Non, pas du tout.
Non,
non je profite du matin.
Oui, faites bien.
Ben oui, j'essaie.
Alors, on va profiter de vous en vous écoutant dans votre chronique.
Alors, le 26 janvier, c'est la journée mondiale de la douane. Parrainée par l'Organisation mondiale des douanes, la Journée internationale de la douane compte 150 États membres et a son siège social à Bruxelles. Son but est de faciliter le commerce et les voyages pour tous les citoyens du monde. Célébrée chaque année le 26 janvier cette année, cette journée spéciale souligne les efforts des hommes et des femmes qui travaillent dans les administrations douanières du monde entier. Que s'est-il passé le 26 janvier dans l'histoire? Remontons en 1788, l'arrivée des premiers colons européens en Australie à bord de la First Fleet qui accoste à Port Jackson. En 1790, la première avienne de l'opéra Così fan tutte de Mozart. En 1875, George Green du Michigan obtient un brevet pour sa fraise électrique de dentiste.
Ça nous fait peur.
Je pensais que j'avais un effet sonore, mais non,
non,
l'ai
non,
pas.
Non, mais laissez faire.
D'accord. En 1905, le plus gros diamant de l'histoire, le Cullinan, qui fait 3106 carats, est trouvé près de Pretoria. C'est assez gros. L'opéra Der Rosenkavalier de Richard Strauss est chanté en première à Dresde en 1911. En 1984, accord entre Ottawa et les Autochtones du Yukon, portant sur 20 000 km² de territoire. En 2001, toujours un 26 janvier, un séisme ravage l'État du Gujarat dans l'ouest de l'Inde, tuant plus de 13 000 personnes. En 2005, Abitibi-Consol confirme la fermeture de la papeterie Port-Alfred au Saguenay. Et en 2007, le gouvernement Harper exprime des excuses à Marar et lui verse 10,5 millions pour sa déportation d'un an en Syrie où il a été torturé. Et pour ce qui est des naissances, Wilder Grave Penfield, le neurologue montréalais qui est né en 1891, le fondateur d'Amnesty International, Sean McBride, est né en 1904, un 26 janvier. Stéphane Grappelli, le violoncelliste, est né aussi un 26 janvier. Le journaliste et politicien québécois Claude Ryan, né en 1925. L'acteur Paul Newman, aussi, est né en 1925, un 26 janvier. Et Michel Sardou, le chanteur français, est né en 1947. Et pour ce qui est des décès, il y a Jeanne Sauvé en 1993. On se souvient qu'elle a été la première femme gouverneure générale du Canada. Et le cinéaste Norman McLaren, qui était né, lui, en 1915, oui. Nous a quittés un 26 janvier 1987.
Mathieu, oui. Je ne veux pas vous piéger ou
allez-y,
vous insulter. Non, mais c'est parce que vous avez parlé de Stéphane Grappelli comme étant un violoncelliste.
J'étudie ça?
Ben, c'est ce que j'ai entendu.
Un violoniste.
Oui, violoniste. Oui, bon. Et aussi pianiste. Et jazzman français.
Mais vous faites bien de me reprendre, surtout quand je connais Stéphane Grappelli, pas de nom, pas de personne.
Ben, vous saviez de quoi vous parliez finalement. Merci.
Merci à vous.
Et à la une de la presse, un bébé vendu au plus offrant. Un couple québécois se retrouve dans l'embarras après avoir acheté un enfant à naître par Internet. À faire un pactole de 10 milliards pour Hydro, la société d'État décroche un contrat record au Massachusetts. Exclusif, actualité crise des médias, un coup de pouce d'Ottawa d'ici un mois. Des coyotes rôdent près des garderies. Et dans la section pause, oser les cheveux blancs. Pour la première fois de son histoire, le ministère provincial de la Santé a dénoncé l'an dernier à la Sûreté du Québec un couple de la Montérégie qui avait acheté par Internet un enfant à naître étranger, a appris la presse. Après une prise de contact sur un forum virtuel, le couple avait invité une jeune Française psychologiquement vulnérable à venir accoucher au Québec afin de s'approprier l'enfant en échange d'argent. Le poteau rose a été découvert après l'accouchement survenu dans un hôpital montréalais. Comble de l'histoire, la jeune femme résidant dans la région de Chartres avait déjà promis le bébé en France pour une grosse somme d'argent, possiblement à un réseau roumain de vente d'enfants, un geste odieux selon la justice. Les autorités françaises ayant eu vent de cette menace, toutes les maternités de l'Hexagone avaient été mises en état d'alerte par le procureur de la République le 3 novembre 2016. Objectif, localiser la femme et l'empêcher de se débarrasser de l'enfant. La mère était en fait à ce moment-là dans un avion à destination de Montréal pour sa seconde transaction, selon la décision de justice qui a fixé le sort du nouveau-né. La femme enceinte est arrivée au Québec un mois avant son accouchement et vivait chez le couple d'acheteurs, indique le jugement en protection de la jeunesse rendu cet été. Celui-ci a déjà un enfant, mais ne peut risquer d'en concevoir un deuxième en raison des problèmes de santé de madame, explique la juge Francine Gendron. Difficile de connaître les motifs de la mère biologique. La preuve indique qu'elle aurait réalisé qu'elle était enceinte trop tard pour avorter. On ne connaît pas la somme engagée par le couple québécois. Après l'accouchement, la mère ne donne aucun soin à l'enfant et délègue cette responsabilité aux acheteurs, indique le jugement. Ceux-ci s'occupent de l'enfant jour et nuit. C'est ce qui éveille les soupçons du personnel médical. La Direction de la protection de la jeunesse, DPJ, prévenue par le personnel, intervient aussitôt. Si la mère biologique a quitté le Québec rapidement après que la DPJ a pris en charge l'enfant, le couple montérégien, lui, s'est retrouvé dans le pétrin. La juge Gendron écrit que le secrétariat à l'adoption internationale a déposé une plainte à la Sûreté du Québec contre Mme B et M. C pour trafic d'enfants. Le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, dont dépend le secrétariat à l'adoption internationale, a précisé dans un courriel qu'il s'était lui-même chargé d'alerter les policiers. Le ministère a interpellé l'ASQ avec les informations qu'il détenait, a écrit dans un courriel Noémie Vanneuvire-Jouise, responsable des relations avec les médias. Lorsqu'il est témoin de situations qui pourraient contrevenir aux lois, le M3S, donc le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, dénonce la situation aux autorités compétentes. L'adoption privée n'est pas permise au Québec. Ainsi, toute personne qui souhaite adopter un enfant domicilié au Québec ou non doit être autorisée par une autorité publique pour entreprendre un tel projet, dit la porte-parole du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec. L'enfant, pour sa part, a été confié à une famille d'accueil québécoise désireuse de s'investir auprès de lui à long terme. La mère biologique a disparu dans la nature en France. Un coup de pouce d'Ottawa annoncé d'ici un mois. La ministre du Patrimoine canadien, Mélanie Joly, a confirmé hier qu'elle procéderait à des annonces d'ici environ un mois en vue d'accorder une aide financière aux médias écrits. Sans entrer dans les détails, elle a assuré que la participation d'Ottawa serait structurée de façon à respecter l'indépendance journalistique des salles de rédaction. Mme Joly a fait part de cette information à la presse après une rencontre avec des représentants de la Fédération nationale des communications à Montréal. Ce qui me préoccupe, c'est comment on peut soutenir la presse écrite sans entraver l'indépendance des salles de nouvelles, a-t-elle expliqué. J'aurai des annonces à faire au cours des prochaines semaines à la suite du budget. 43 % c'est la proportion des emplois qui ont disparu dans l'industrie de la presse écrite au Québec depuis 2009. À l'échelle canadienne, au moins 16 500 postes ont été supprimés depuis 2008. Un survivant et deux familles se battent pour être indemnisés. Les familles de deux victimes de l'attentat de Québec, l'une tuée et l'autre grièvement blessée, se battent en vain depuis un an pour être reconnues comme des victimes d'actes criminels et indemnisées à ce titre. Un survivant de l'attentat lutte quant à lui pour recevoir un remplacement du revenu. Les experts s'entendent pour dire qu'il ne peut pas travailler, mais il ne reçoit pas un sou de Québec. Depuis l'attaque qui a fait 6 morts et 5 blessés le 29 janvier 2017 à la Grande Mosquée de Québec, les femmes d'Eman Derbali, devenue paraplégique, et d'Abou Bakr Tabti, tués dans l'attentat, ainsi que leurs 5 enfants, peinent à recevoir les soins psychologiques dont ils ont besoin. Les mères n'ont droit à aucune rente ou remplacement du revenu, indique leur avocat Marc Bellemare. Les enfants n'auront ni aide financière ni service s'ils développent des problèmes particuliers en vieillissant. Pourquoi? La direction de l'indemnisation des victimes d'actes criminels refuse de leur accorder le titre de victime de l'attentat parce qu'ils n'en ont pas été des témoins directs. Sont des victimes les personnes qui étaient sur place à l'intérieur de la mosquée, sont des victimes au sens de la loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels. Les personnes qui étaient présentes à l'extérieur de la mosquée avant l'arrivée des policiers et qui ont vu le tireur, qui ont entendu les tirs, ou qui ont été en présence d'une personne blessée ou tuée sont des victimes au sens de la loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels. 634 696 027 sommes versées aux victimes de la tuerie et à leurs proches à titre d'indemnité et de frais remboursés, selon la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail. Alors, j'ai parlé de millions, c'est plutôt 634 696 et 27 cents. Le propriétaire du restaurant Nouveau Verdun, véritable institution ouverte en 1938 dans l'arrondissement du même nom à Montréal, vient d'être condamné à 1 mois de prison pour avoir utilisé 125 000 fausses factures afin d'éviter de verser les taxes sur ses ventes. Dionysios Giannotis, qui gérait depuis une trentaine d'années le restaurant familial spécialisé dans les mets grecs, italiens, canadiens et chinois, a reconnu devant le tribunal qu'il avait volontairement omis de percevoir et remettre les taxes, a annoncé Revenu Québec ce matin dans la foulée de sa condamnation. M. Giannotis a aussi reconnu avoir utilisé un programme informatique qui lui a permis de produire environ 125 000 fausses factures semblables à celles produites par le module d'enregistrement des ventes. La loi force les restaurateurs à utiliser l'appareil pour éviter la fraude fiscale. Outre la peine de prison, le restaurateur et son entreprise devront payer une amende de 151 000 $. En France, l'eau continue à monter à Paris, rues et routes inondées, navigation interdite, péniches et musées sous surveillance, riverains les pieds dans l'eau. Le niveau de la Seine continuait à monter hier en région parisienne, une crue au ralenti qui devrait perturber la capitale française encore plusieurs jours. Contrat record de 10 milliards pour Hydro-Québec, c'est le prix très bas de l'électricité et le fait que le projet de la ligne de transport Northern Pass est prêt à démarrer qui ont joué en faveur du choix d'Hydro-Québec pour fournir de l'énergie propre à l'État du Massachusetts pendant 20 ans. Nous avions plusieurs bonnes options, mais celle-là sortait du lot, a commenté Judith Judson du département de l'énergie du Massachusetts en annonçant le résultat de l'appel d'offres pour 1200 MW d'énergie verte. Il s'agit d'un contrat historique pour la société d'État, tant pour la quantité d'énergie que pour le prix obtenu. Ce sera une source de revenus majeure pour Hydro-Québec, a indiqué sa porte-parole Lynn Saint-Laurent, qui a ajouté qu'il était prématuré de parler de prix parce que les termes du contrat restaient à négocier. Hydro-Québec s'est engagé à fournir 9,4 milliards de kWh par année pendant 20 ans au Massachusetts. Le contrat généra quelque 500 millions de revenus annuels, pour un total de 10 milliards de dollars pendant la durée du contrat. Le prix de vente, qui sera ajusté périodiquement, est d'environ 4,5 cents le kilowattheure, selon les informations obtenues par la presse.
Par ici, le vent vient du nord. Peut-être se tourner les pieds pour voir de ton bord. À quoi ça sert? Ça sert plus à rien. Quand tes deux cheveux emmêlés sont noués comme il faut. Moi j'allais dire, j'irai jusque là. Tu tournes les pieds puis tu changes les pas. Puis ça fait mal mais ça fait du bien. Quand t'enfonces tes ombres dans mes mains. T'enfile, l'horloge est brisée, nous perce des grilles. Puis je tiens à toi, mais je veux pas couler. Retiens ton sable, le vent va souffler. Je sais pas pourquoi, mais moi j'espère. Malgré les cendres, malgré la guerre. Puis des horloges, tu vas en voir passer. Le temps que tu prends pour respirer. Du nord, peut-être tourner les pieds, mais il est un peu temps. À quoi ça sert? Ça sert plus à rien. Quand tes deux cheveux emmêlés sont noués comme il faut. Moi j'allais dire, j'irai jusque là. Tu tournes les pieds, puis tu changes les pas. Puis ça fait mal, mais ça fait du bien. Quand t'enfonces tes ongles dans mes mains. Puis ça fait mal, mais ça fait du bien. T'enfonces tes ongles dans mes mains.
Les pieds noués, chantés par Soul and Sisters.
À la une du Devoir, Henriette Jonca, c'est une photo d'Henriette Jonca, 85 ans, qui vit seule dans une résidence pour personnes âgées au centre-ville de Montréal. La solitude serait aussi dommageable que la cigarette ou la sédentarité. Santé publique, mortelle solitude. L'isolement est un tel fléau que la Grande-Bretagne lui a consacré un ministère. Inconduite sexuelle autour du milieu politique. Deux chefs de partis provinciaux et un ministre fédéral démissionnent après avoir été dénoncés par de présumées victimes. Télévision, entrée dans la danse, une forme d'art qui gagne en popularité grâce aux émissions qui la mettent en vedette alors qu'on voit trois filles en train de danser, numéro de danse urbaine à Danser pour gagner, diffusé sur V. Attendre la grâce, rencontre avec la cinéaste d'animation Michèle Cournoyer, lauréate du prix Albert Tessier. États-Unis, mon mur contre vos dreamers, propose Trump. Zeitgeist, la chronique de José Blanchette, de la parole au geste, l'heure du grand racolage. Le mouvement « Moi aussi » vient de déferler sur le monde politique. En 24 heures, trois politiciens, dis-je bien, de trois parlements différents ont dû démissionner à cause d'allégations d'inconduite sexuelle. Le ministre fédéral Kent Hare a quitté son poste en fin de journée jeudi, accusé d'avoir proféré des commentaires à connotation sexuelle inappropriée. La veille, les chefs conservateurs en Ontario et en Nouvelle-Écosse, Patrick Brown et Jamie Baily, quittaient leurs fonctions à la suite d'allégations d'inconduite sexuelle et de harcèlement sexuel. Jeudi matin, le premier ministre disait vouloir s'entretenir avec son ministre des Sports et des personnes handicapées avant de commenter davantage. Kent Hare annulait quant à lui abruptement son point de presse prévu à Toronto. Le verdict est tombé en soirée. Justin Trudeau a dit avoir accepté la démission de son ministre en attendant le résultat de l'enquête confiée à l'externe. Toute forme de harcèlement est inacceptable et les Canadiens ont le droit de vivre et de travailler dans un environnement exempt de harcèlement, a-t-il fait valoir dans un communiqué. Kent Hare demeure membre du caucus libéral. La ministre des Sciences, Kirsty Duncan, hérite de ses responsabilités. Tout au long de ma carrière, j'ai toujours essayé de traiter les autres avec respect et je suis conscient que ce qui est le plus important, c'est comment chaque personne se sent, a quant à lui réagi M. Hare. Du côté ontarien, la démission en pleine nuit du chef conservateur Patrick Brown est d'autant plus fracassante qu'elle survient 5 mois avant la prochaine élection et que M. Brown était perçu comme le premier ministre en attente. Les allégations diffusées par le réseau CTV sont portées par deux femmes. Elles n'ont pas été prouvées en cour. Plus tôt mercredi, c'est le chef du Parti progressiste conservateur de la Nouvelle-Écosse, Jamie Baily, qui a été forcé de démissionner. Le parti avait été alerté d'allégations de harcèlement sexuel fin décembre et les conclusions d'une enquête externe ont mené le caucus à montrer la porte à son chef mercredi. Sainte-Justine, 11 associations de parents, l'Association des pédiatres du Québec ainsi que l'ex-ministre libéral Marguerite Blais ont joint leur voix hier à la coalition qui demande au gouvernement de redonner au CHU Sainte-Justine une gouvernance autonome. Le risque, c'est qu'en l'englobant dans le CHUM, on mette de côté les priorités des enfants. Je pense que les décisions doivent venir à l'interne, a affirmé l'ancienne ministre des Aînés, en conférence de presse, Mme Marguerite Blais. Les conseils d'administration du CHUM et du CHU Sainte-Justine ont été fusionnés en 2015. Les deux établissements sont dirigés par le Dr Fabrice Brunet. Alors qu'Ottawa se prépare à faire installer des tours cellulaires dans Charlevoix en vue du G7, des régions comme la Gaspésie et le Saguenay-Lac-Saint-Jean attendent depuis des années qu'on leur offre le service dans certains secteurs. C'est sûr qu'on trouve ça très injuste, dénonce Ghislaine Hudon, mairesse de Lac-Bouchette, une municipalité de 1300 habitants située entre Latuc et le Lac-Saint-Jean. On l'a demandé la couverture cellulaire, nous aussi. Récemment, le gouvernement de Justin Trudeau annonçait qu'il allait débloquer 15 millions de dollars pour offrir un service cellulaire fiable dans Charlevoix. Le contrat donné à Bell desservira la principale autoroute de la région, la 138, celle qui longe le fleuve entre Baie-Saint-Paul et Tadoussac, et la route 170 entre Saint-Siméon et Saguenay. Pour Mme Hudon, c'est deux poids, deux mesures. Chez nous, l'argent ne finit pas par débloquer, et là-bas, il a suffi d'un claquement de doigts pour faire débloquer les fonds, note-t-elle. Interpellé là-dessus, jeudi, le ministre Jean-Yves Duclos a rétorqué qu'il faut continuer à travailler très fort pour que ces segments soient couverts aussi par d'autres mécanismes que l'organisation d'un G7, évidemment. En attendant, Lac-Bouchette a décidé de s'en charger elle-même, a expliqué au Devoir la mairesse Ghislaine Hudon. On avait une tour du Canadien national dans le village et ils étaient prêts à la louer. J'ai contacté les compagnies de cellulaire pour les convaincre que ça pouvait être rentable d'offrir le service. L'animatrice américaine Oprah Winfrey a estimé ne pas avoir l'ADN pour devenir présidente dans un entretien réalisé 3 semaines avant son discours aux Golden Globes qui avait relancé les spéculations sur son éventuelle candidature à l'élection de 2020. « Ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse », expliquait alors la première femme noire milliardaire dans le monde au sujet d'une possible candidature. Et le procureur de New York a annoncé jeudi la création d'une équipe spécialisée dans les violences sexuelles au travail, nouvelle conséquence de l'affaire Weinstein. Cette nouvelle équipe regroupa 15 procureurs adjoints et une assistante sociale ayant notamment pour mission d'enquêter rapidement sur tout problème leur étant signalé. Vous écoutez Canal M de Vues et Voix, c'est l'émission... Le quotidien des quotidiens qui est en cours. Hélène Denis qui vous accompagne. À venir en musique, il y aura la chanson de Marjo, Mathieu.
D'accord.
Et puis on continue avec le Journal de Montréal.
Et oui, une demande spéciale de notre chère animatrice. C'était À bout de ciel, chanté par Marjo.
À la une du Journal de Montréal, au jeu à 16 ans, la planchiste québécoise Elizabeth Hosking sera la plus jeune athlète de la délégation canadienne aux Olympiques à Pyeongchang le mois prochain. Sept postes de haut gradé abolis. Prud'homme fait le ménage au SPVM. Un commis tente de lui voler son billet de loterie. Joanne Rabhi a reçu en cadeau le fameux billet pendant la période des fêtes dans les jours suivant le tirage qu'elle s'est rendue dans un dépanneur de Saint-Lambert sur la rive sud pour le faire vérifier, a appris TVA Nouvelles. Arrivée sur place, elle a alors remis son billet à un commis. Ce dernier lui a dit qu'il n'était pas gagnant tout en le conservant. C'est seulement il y a quelques jours que Mme Rabhi a reçu un appel des enquêteurs de l'Auto-Québec. Ils lui ont appris qu'elle avait bel et bien gagné une voiture neuve ou un lot de 50 000 $. Si je prends la peine d'en parler, c'est vraiment pour aider les gens à ne pas faire confiance aux autres, à garder leurs billets et à vérifier avec l'ordinateur ou d'une autre façon, a-t-elle déclaré en entrevue. Le commis du dépanneur n'a pas utilisé la valideuse de l'Auto-Québec et a seulement comparé les chiffres sur le billet avec ceux qui étaient affichés dans le dépanneur. Il a ensuite conservé le billet et tenter de falsifier la signature de la femme. Toutefois, ce que le commis ne savait pas, c'est que le billet de Mme Rabhi avait été enregistré sur le site Internet de l'Auto-Québec. C'est ainsi que la Société d'État a pu faire le lien. L'Auto-Québec a pris la décision de retirer les appareils de vente de loterie dans ce dépanneur. Mme Rabhi n'a pas l'intention de déposer une plainte et ne veut pas donner le nom du commerce. Un questionnaire très intrusif écrit entre guillemets, l'Université Laval a contrevenu à la charte en interrogeant des candidats sur leur santé sexuelle notamment. Selon le témoignage d'une candidate recueillie par le Journal de Montréal, le questionnaire médical très intrusif de 4 pages lui a été remis avant son entrevue pour un poste de technicienne en documentation à l'Université Laval au mois de novembre 2017. « J'ai senti qu'on entrait dans mon intimité. Je me suis sentie irritée et ça ne m'a pas mise dans des dispositions très positives pour l'entrevue », raconte la femme qui a requis l'anonymat. Parmi la quarantaine de questions du formulaire dont le journal a obtenu copie, on retrouve entre autres une section « Femmes seulement » dans laquelle on demande « Avez-vous eu des problèmes au niveau des seins et ou d'ordre gynécologique en plus de la date du dernier examen gynécologique, le nom du médecin pratiquant, ainsi que le nombre de grossesses, d'avortements et si la candidate est présentement enceinte ». C'est à peu près le meilleur exemple d'un formulaire au contenu illégal, affirme Maître Maxime Guérin, avocat spécialisé en droit du travail associé chez Sarai Lys Avocats. Le conseiller syndical, qui représente les quelques 2000 employés de soutien de l'Université Laval, a admis être tombé en bas de sa chaise lorsqu'informé de cette pratique par le journal. Bien au fait de l'existence de cette pratique, lorsque premièrement interrogé par le journal à cet effet, l'Université Laval a, quelques heures plus tard, affirmé que le questionnaire médical imposé aux candidats pour des emplois de bureau et quelques emplois de technicien et de métier depuis 2009 avait été retiré. Donald Trump aurait ordonné en juin dernier le congédiement de Robert Mueller, le procureur spécial chargé de superviser l'enquête sur la Russie qui cherche à déterminer si l'équipe de campagne du président républicain s'est concertée avec Moscou pour influencer les résultats de l'élection en 2016. Selon ce qu'a rapporté le quotidien The New York Times hier soir, le président Trump aurait toutefois fait marche arrière à la dernière minute alors que l'avocat de la Maison-Blanche, Donald F. Megan, menaçait de démissionner. Rappelons que le président Trump, qui est arrivé hier au Forum économique mondial de Davos en Suisse, a laissé entendre la veille qu'il était prêt à être interrogé sous serment par le procureur Mueller. Le nouveau chef du SPVM passe de la parole aux actes. Le nouveau patron de la police de Montréal a entamé son grand ménage hier soir en annonçant l'abolition de 7 postes de haut gradé et le retour d'une équipe en laquelle vous pourrez avoir confiance aux affaires internes. Arrivé en fonction depuis un mois et demi, le chef intérimaire impose un régime minceur à la haute direction du service de police de la Ville de Montréal en abolissant le grade d'assistant directeur. Philippe Pichet et les autres prédécesseurs de Martin Prudhomme étaient secondés d'une équipe de 11 hauts gradés, comptant 3 directeurs adjoints et 8 assistants directeurs. Dorénavant, le chef sera entouré par 4 directeurs adjoints, point. Ce sont donc 7 postes de hauts gradés, plutôt, payés quelque 200 000 par année qui seront éliminés. Les officiers qui occupent ces fonctions devront donc se résoudre à une rétrogradation. La gendarmerie et les enquêtes étaient jusqu'à maintenant regroupées ensemble sous le même parapluie administratif. Leur rivalité et guerre de pouvoir ont été décriées par leur nouveau patron en entrevue au journal à la fin décembre. M. Prudhomme nous avait clairement fait savoir qu'il voulait rapidement solutionner les problèmes majeurs à sa brigade moribonde des affaires internes, minée par des allégations de fabrication de preuves révélées par notre bureau d'enquête à l'hiver 2017. Le SPVM sera donc géré en 4 grandes directions administratives, menées par autant de hauts gradés, les enquêtes criminelles, la gendarmerie, les services corporatifs et les normes professionnelles. Trois autos de la SQ pour saisir leur sirop d'érable. Le couple de producteurs acéricoles de l'Estrie qui s'est fait saisir son sirop d'érable sous la surveillance de la police hier promet de se battre pour avoir le droit de le vendre autant qu'il veut à l'épicerie ou au dépanneur. Daniel Gaudreau et sa conjointe Nathalie Bombardier refusent de respecter l'obligation d'écouler leur surplus de production via la Fédération des producteurs acéricoles du Québec. Le couple veut écouler tout son sirop directement à des commerces de sa région et même partout dans la province ou en Ontario. On est des entrepreneurs et on est dans un marché ouvert. Ça n'a pas de sens de nous empêcher de vendre. Les États-Unis, l'Ontario, le Nouveau-Brunswick peuvent acheter et vendre du sirop comme ils veulent, tandis que nous sommes restreints, déplore Mme Bombardier, qui compte faire changer les lois. Et les chauffeurs ne veulent pas remplacer leur vieux taxi. La limite d'âge est de 8 ans à Montréal contre 10 ans pour la compagnie Uber. Des chauffeurs de taxi demandent à la Ville de Montréal de modifier le règlement qui leur interdit d'opérer avec un véhicule de plus de 8 ans, alors que la limite est fixée à 10 ans dans le reste de la province et pour les chauffeurs d'Uber. C'est injuste, lance Hassan Katoua, autoproclamé shérif des taxis à Montréal. Comme 300 autres cette année, son véhicule de 2010 ne sera plus autorisé à servir de taxi à Montréal à compter du 31 mars, sous peine d'amende de 700 à 2100 $. M. Katoua risque aussi de se faire retirer son permis de taxi acheté pour près de 200 000 $. Le règlement instauré en 2016 par le Bureau du taxi impose une limite d'âge plus basse aux taxis montréalais qu'ailleurs au Québec. Il force aussi les chauffeurs à acquérir des véhicules de moins de 3 ans et non de moins de 5 ans, comme dans le reste de la province, ce qui renforce la grogne de certains chauffeurs. À la Ville, on se dit ouvert à la discussion. On réfléchit à ce sujet et on collabore avec Québec pour revoir le cadre réglementaire de l'industrie du taxi, affirme Eric Allen Caldwell, responsable des transports au comité exécutif de la Ville, mais aucun changement de la réglementation n'est prévu d'ici au 31 mars. We'll be right back.
dans mon angle mort.
Il s'appelle Philippe Braque et sa chanson était Christelle.
Les journaux régionaux. Alors, on commence avec une nouvelle issue du droit. David Saint-Jacques croit à l'exploration de Mars d'ici 30 ans. L'exploration de la planète Mars est si près que les élèves qui fréquentent actuellement l'école secondaire peuvent rêver d'y poser le pied, a affirmé jeudi l'astronaute David Saint-Jacques. Poursuivant son entraînement à Moscou, M. Saint-Jacques a répondu pendant une quarantaine de minutes aux questions de jeunes étudiants de 4 écoles secondaires québécoises, dont ceux fréquentant le Collège Nouvelle Frontière à Gatineau, et ce, par l'entremise de la vidéoconférence. En uniforme, l'astronaute de 48 ans a toutefois précisé que le voyage vers Mars était hors de la portée de sa génération. L'exploration de la planète rouge pourrait devenir réalité d'ici 20, 25 ou 30 ans, a-t-il confié aux quelques 400 élèves du Grand Montréal et de la région de Gatineau qui l'écoutaient. Il a ajouté que les premiers astronautes qui visiteront Mars ont actuellement l'âge de son jeune auditoire. David Saint-Jacques, diplômé en génie, physique, en astrophysique et en médecine, participera à une mission spatiale alors qu'il montera à bord d'une fusée Soyouz plus tard en 2018. Il deviendra alors le premier Canadien à visiter la Station spatiale internationale depuis Chris Hadfield en 2012 et 2013. Il a parlé jeudi d'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, de son programme de mise en forme et de ses sentiments à l'idée de quitter la Terre. L'astronaute a reconnu que son principal objectif, à l'instar de n'importe quelle recrue, était de ne pas commettre d'erreur au cours de sa mission d'une durée de 6 mois. Il a expliqué que son entraînement avait été programmé pour lui permettre de relever n'importe quel défi, qu'il s'agisse de faire fonctionner le bras canadien ou de mener des expériences scientifiques pour entretenir la station spatiale. En raison de sa formation, David Saint-Jacques sera aussi le médecin de la mission. Omar Metesh, un élève de deuxième secondaire au collège Jean de Brébeuf, lui a demandé comment il se sentira lorsqu'il sera coupé de la Terre, ne serait-ce que pour une brève période de temps. « J'anticipe d'être ébloui par la beauté de la Terre quand j'aurai la chance de la regarder, quand je serai en orbite », a-t-il répondu. « 21 élèves, 21 récits et 21 solutions », c'est un article dans le quotidien. Mégane Dionne qui signe cet article. Avez-vous déjà été victime d'intimidation? Lorsqu'on pose cette question à des jeunes du secondaire devant leur père, la réponse est souvent unanime, non. Mais pris individuellement, ils sont nombreux à avoir déjà reçu une remarque désobligeante qui les a blessés. Enseignante au secondaire à la cité étudiante de Roberval, Chantal Potvin fait de l'intimidation son cheval de bataille depuis plusieurs années. Elle reçoit des confidences presque chaque semaine de ses élèves et c'est ce qui l'a poussée à agir. J'ai moi-même été victime d'intimidation avec ma tache au visage quand j'étais plus jeune, mais ça s'arrêtait une fois rendue chez moi. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ça ne finit plus. C'est important d'intervenir pour que ça cesse, croit celle qui enseigne depuis maintenant 26 ans. Chaque année, elle demande à ses élèves d'écrire un conte sous un seul et même thème. Elle a choisi celui de l'intimidation cette année. Parmi les critères à respecter, l'histoire devait se terminer sur une note positive. Sean Lee Jean-Pierre, qui habite à Roberval, mais qui appartient à la communauté d'Obidjiwan, a eu du mal à trouver une idée de départ. Il s'est pourtant déjà fait intimider lorsqu'il habitait à Chicoutimi. Le jeune homme a finalement choisi un chien pour incarner son personnage principal. Quand ça m'est arrivé de me faire intimider, j'ai rencontré la directrice de mon école et d'autres personnes et ça m'a vraiment aidé. Il faut toujours dénoncer. Même si on pense que c'est stoulé, ce n'est pas stoulé, assure le jeune Atikamek de 3e secondaire. Dans son récit, Rocky se confie à une amie et le village où il habite finit par comprendre que rejeter autrui, c'est mal. Pour sa part, Ellie Blackburn, un collègue de classe de Shanley, espère que leurs contes mèneront à des solutions concrètes. C'est un premier pas, ça fait en sorte qu'on en parle, estime-t-il. Les jeunes s'entendent d'ailleurs pour dire qu'à leur école, il y a beaucoup d'aide pour les victimes d'intimidation. Leurs récits ont été rassemblés et imprimés dans un petit recueil en noir et blanc. Il a été remis à des enfants malades de l'hôpital de Roberval. Tuerie à la Grande Mosquée, j'étais obsédée par la revanche, dit La Bombe, c'est dans le soleil, Jean-François Néron. Le maire de Québec avoue avoir été obsédé par une possible revanche à la suite de la tuerie de la Grande Mosquée le 29 janvier 2017. Dès lors, il a senti la nécessité de maintenir sa population unie, une responsabilité dont le poids lui pèse encore aujourd'hui. Sur un ton plus intimiste qu'à son habitude, Régis Labombe s'est confié sur la manière dont il a vécu les événements le soir du drame. À titre de maire, il a été parmi les premiers informés. Il était à son chalet dans le secteur de Saint-Anne-de-Beaupré lorsque la directrice générale adjointe de la ville, Chantal Giguère, lui a communiqué la nouvelle. Elle-même avait reçu un téléphone du chef de police, Robert Pigeon. « Je me suis mis en mode gestion de crise et à réfléchir sur la suite des choses. » Dans ce temps-là, « il n'y a pas de place pour les sentiments », lance-t-il. C'est que le maire, les autres élus et les administrateurs de la ville ont reçu une formation pour gérer ce genre d'événement. C'est moi qui dirige la cellule de crise. J'ai un cahier dans lequel est marqué tout ce que je dois faire. Je l'ai lu pour me rafraîchir la mémoire sur les gestes à poser et je me suis dirigé vers le centre de coordination. Heureusement qu'on a été formé. C'était « pas de panique », explique M. Labombe. Comme il s'agissait d'un acte terroriste potentiel, il n'a pas eu à aviser les gouvernements provincial et fédéral. C'est plutôt eux qui l'ont appelé après avoir été avisés par leurs corps de police respectifs, la Sûreté du Québec et la Gendarmerie royale du Canada déjà sur le terrain. Le maire se souvient avoir subi beaucoup de pression pour sortir rapidement devant les caméras, une tentation à laquelle il n'a pas succombé. Ma famille, mes amis me disaient « il faut que tu sortes parler, le monde se demande où est le maire ». À un moment donné, j'ai douté, mais je suis revenu au cahier et ce que je faisais était le plus utile. Il tiendra finalement un point de presse commun vers 1h40 avec le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, et le ministre de la Sécurité publique, Martin Coiteux. C'est à ce moment précis que la charge émotive qu'il avait emmagasinée a fait surface. À la conférence de presse, j'ai eu une bouffée. Le lendemain aussi, j'étais très émotif. « Je vais vous dire que ce genre d'événement, ça teste tes limites, mais je suis capable d'en prendre », assure-t-il. Bien que M. Labombe pensait aux victimes et à leurs familles et à l'impact de la tuerie sur l'image de la ville, l'idée qu'un autre acte sanglant puisse être posé le tenaillait. On savait peu de choses et il s'en disait beaucoup. Est-ce que le tireur était membre d'un groupe extrémiste ou c'était un loup solitaire? Dans la mesure où ça pouvait être de la provocation, j'étais obsédée par la revanche. C'est pourquoi il s'est fixé comme objectif de maintenir la population unie. L'année d'élection qui se termine l'a freiné dans son désir de valoriser le vivre ensemble. C'est pourquoi il veut y accorder beaucoup d'importance en 2018. Je veux diminuer le niveau de xénophobie parce qu'il y en a à Québec comme ailleurs. Cette commémoration, c'est un moment charnière. Il n'y a pas de formule magique pour le vivre ensemble. Il faut faire ça en s'assoyant avec la communauté. J'aimerais ça savoir que c'est un autre qui a cette responsabilité, mais je sais que les yeux sont dirigés vers moi, conclut-il. Ruth-Hélène Brosseau, nommée leader parlementaire. Ruth-Hélène Brosseau agira dorénavant à titre de leader parlementaire du nouveau Parti démocratique. C'est dans le Nouvelliste, sous la plume de Mathieu Lamotte. Elle s'est vue confier officiellement ses responsabilités jeudi par le chef néo-démocrate Jagmeet Singh. Concrètement, la députée de Berthier-Masquinongé à la Chambre des communes devra notamment guider les travaux législatifs de sa formation politique, s'occuper des questions relatives aux procédures et négocier le calendrier de la session parlementaire à venir. C'est un vote de confiance exceptionnel. Je suis extrêmement enthousiaste de commencer dans mon nouveau rôle, déclare-t-elle par voie de communiqué. Et de retour dans le quotidien, l'après-patate en poudre. Dès lundi, les patients de l'hôpital de Dolbeau-Mistassini auront le choix entre deux menus à l'heure du dîner et du souper. Ils pourront entamer le repas avec un potage ou une soupe du jour en accompagnement des légumes frais ou congelés remplaceront les produits en conserve et les pommes de terre en flocons n'auront plus leur place dans les assiettes. Et les patients souffrant de dysphagie auront eux aussi accès à plus de choix. Les Dolmissois goûteront les premiers au tout nouveau menu régional établi sur un cycle de 3 semaines qui sera offert dans tous les établissements de soins de santé du Saguenay-Lac-Saint-Jean d'ici l'été. Merci d'écouter le quotidien des quotidiens. À venir, les actualités culturelles et aussi le segment « Libre ».